Laudetur Jesus Christus.
Le magazine de Radio Vatican. Présenté par Romilda Ferrotto.
Rome et l'heure des catéchistes, ils ont convergé par centaines vers la ville éternelle. Le pape François les a exhortés à un nouveau dynamisme. Pour être fidèle, il faut savoir changer, leur a-t-il dit. Le pape François qui a par ailleurs confié un nouveau rôle aux gendarmes du Vatican, celui d'empêcher les médisances et les commérages. Nous irons également au Moyen-Orient, au Vietnam, en Croatie dans ce magazine. Et en fin d'émission, ne manquez pas nos rendez-vous hebdomadaires avec les livres pour Dieu et le commentaire de l'Évangile. Des catéchistes venus de nombreux pays ont envahi les alentours du Vatican. Des journées leur sont consacrées en cette fin de semaine dans le cadre de l'année de la foi. Point d'orgue de ce rassemblement, la concélébration eucharistique qui sera présidée par le pape François dimanche matin sur la place Saint-Pierre à partir de 10h30 et que vous pourrez suivre en direct sur le player de Radio Vatican avec commentaires en français à l'adresse www.radiovaticana.va. Le Saint-Père a déjà livré ses recommandations aux catéchistes vendredi soir lors d'une rencontre dans la salle Paul VI au Vatican. Longuement ovationné, il les a exhortés à se montrer créatifs et à savoir s'adapter aux circonstances, en évitant au contraire de s'enfermer dans leurs certitudes et dans des schémas bien établis. Dieu n'est pas rigide, a-t-il lancé. Dans le cadre de leur pèlerinage à Rome, quelques 1600 représentants des commissions épiscopales pour l'évangélisation et la catéchèse, venus d'une cinquantaine de pays, ont par ailleurs participé à un congrès international de catéchèse, organisé par le Conseil pontifical pour la promotion de la nouvelle évangélisation. Parmi les participants, Jolanka Mrozowska, responsable du service de la catéchèse pour le Brabant Wallon en Belgique. Interrogée par Manuela Affigi, elle revient sur le thème de ses journées, le catéchiste témoin de la foi.
La catéchèse, ce n'est pas seulement mettre quelqu'un en contact, mais le mettre en intimité avec le Christ. Et pour mettre en intimité, il faut donner goût, il faut donner envie. Donc, d'où ce besoin d'un catéchiste qui attire au Christ, en fait.
Comment est-ce qu'on attire au Christ ?
L'exemple de vie, donc de tout simplement être chrétien là où je suis. Et que par là déjà, par la vie, par les valeurs, par ma manière d'être, interpeller ceux qui m'entourent. Je pense que c'est un témoignage qui se vit aussi bien à l'intérieur de l'Église, entre les personnes qui sont croyantes, parce qu'on s'aide mutuellement à cheminer, et aussi envers les personnes qui sont, disons, extérieures à l'Église, mais qui souvent sont à la recherche, sans savoir où se tourner. D'où, je pense, ce besoin justement de témoigner. Bon, là, ça dépasse bien le contexte de la catéchèse, parce qu'il s'agit là de la nouvelle évangélisation. Donc, comme il donnait cet exemple magnifique, de se poser la question comment ça a pu se faire qu'un petit groupe de gens qui vivaient ensemble dans une cité multiculturelle qui était Antioche ont été reconnus pour leur particularité, justement, j'imagine, par leur manière de vivre, leur manière d'être. Regardez comme ils s'aiment. On peut espérer que c'est ça qui a attiré l'attention des habitants d'Antioche et qui a fait que, jusqu'aujourd'hui, on nous appelle chrétiens.
Est-ce que vous pensez que les catholiques eux-mêmes, ceux qui sont déjà dans l'Église, est-ce qu'ils connaissent assez bien la foi ?
Moi, je pense qu'on n'a jamais fini de la découvrir, mais ce qui est dommage, c'est sûrement une situation dans laquelle on s'arrête le plus souvent, en tout cas en Europe, à la confirmation, à l'âge de l'adolescence. Ensuite, on continue son chemin au niveau professionnel, au niveau humain, on acquiert une certaine maturité. Par contre, au niveau de la foi, on a l'impression d'avoir eu notre petit diplôme, voilà, j'ai eu mes sacrements, c'est bon, hein, c'est la catéchèse préparation au sacrement, hein, et pas à une vie chrétienne. Et allez hop, on tourne la page et c'est fini.
Jolanka Mrozowska, responsable du service de la catéchèse pour le Brabant Wallon en Belgique. J'ajoute que l'importante délégation française est accompagnée de 10 évêques et présidée par Mgr Pierre Dornelas, archevêque de Rennes. Le diable essaie de provoquer une guerre interne au Vatican, une sorte de guerre civile et spirituelle. C'est ce que pense le pape François. Il l'a affirmé samedi matin devant les gendarmes du Vatican. Le souverain pontife célébrait une messe à leur intention dans les jardins du Vatican, à la veille de la fête liturgique du saint patron de la gendarmerie, l'archange Michel. Le compte-rendu de Thomas Chabol.
Ce n'est pas une guerre que l'on combat avec des armes, mais avec les langues. Avec le style imagique qu'il affectionne, le pape François a lancé un appel pressant à ne pas dire du mal les uns des autres, et à ne pas tendre l'oreille aux médisances. Il a même exhorté ses gendarmes à intervenir s'ils entendent des commérages. Il faut leur dire d'arrêter, a-t-il dit, et leur demander de sortir de l'enceinte du Vatican. Car c'est par les bavardages que le mal s'infiltre pour répandre son venin et détruire l'unité. Pour le pape, il faut aujourd'hui défendre le Vatican contre la zizanie, cette contagion contre laquelle personne n'est immunisé. Sur le ton de la plaisanterie, le pape Bergoglio a noté que Napoléon ne reviendra plus, qu'il est peu vraisemblable qu'une armée vienne s'emparer du Vatican. C'est donc contre un adversaire plus sournois qu'il invite les gendarmes du Vatican à agir. La guerre qui se livre aujourd'hui dans le petit État est tout autre. C'est la guerre des ténèbres contre la lumière, de la nuit contre le jour. Il ne s'agit plus de défendre les portes et les fenêtres de l'État, mais plutôt les portes des cœurs de ceux qui y travaillent, où la tentation peut entrer comme partout ailleurs.
Cette année, la fête de la gendarmerie vaticane s'est déroulée sous une forme discrète, sans parade militaire vendredi soir, en présence de 8 cardinaux, dont le secrétaire d'État sortant et du ministre italien de la Justice. Dans son discours, le commandant Gianni a évoqué l'impact du style pastoral du pape François sur le service quotidien de la gendarmerie. J'ajoute que ce samedi matin, le pape Bergoglio a célébré deux messes, une comme tous les matins dans la chapelle de la résidence Sainte-Marthe, l'autre pour les gendarmes près de la grotte de Lourdes, où il aime se rendre pour prier le rosaire. À partir de ce dimanche, la ville de Rome accueille la 27e rencontre internationale pour la paix organisée par la communauté catholique de Sant'Egidio. 400 responsables des grandes religions et représentants de la vie politique et culturelle provenant d'une soixantaine de pays vont participer aux rencontres et débats publics. Ce rassemblement de 3 jours est placé sous le thème du courage de l'espérance, religions et cultures en dialogue. Après l'assemblée d'inauguration dimanche après-midi, des sessions de travail sont prévues ainsi que des rencontres de prière. Les travaux s'achèveront sur la place du Capitole par la proclamation d'un appel à la paix. Le Conseil des patriarches catholiques d'Orient s'est réuni vendredi au Liban pour préparer un mémorandum qui sera remis au pape François lors de l'entretien qu'il leur accordera en novembre prochain. À cette occasion, le patriarche maronite Béchaharaï a exprimé sa solidarité avec les communautés confrontées à de graves difficultés au Moyen-Orient, devenu selon lui un terrain privilégié pour le fer et le feu, où le printemps arabe s'est transformé en un hiver de massacres et de destruction, alors que les peuples aspiraient à des réformes et à une nouvelle vie. Les patriarches ont constaté que les soubresauts actuels menaçaient encore plus l'avenir des communautés chrétiennes locales. Les églises orthodoxes seront également représentées lors de la rencontre du Saint-Père avec les patriarches catholiques d'Orient qui devrait se dérouler le 22 novembre après l'assemblée plénière de la Congrégation pour les églises orientales à Rome. Au Canada, Mgr Paul-André Durocher est le nouveau président de la Conférence des évêques catholiques. Il a été élu lors de l'assemblée plénière qui s'est achevée vendredi. L'évêque de Gatineau succède à Mgr Smith. Au cours de leur assemblée, les évêques canadiens ont pu partager leurs expériences pastorales et réfléchir ensemble aux défis actuels. Rapport avec l'État et les institutions, dialogue écuménique et interreligieux, rôle de l'évêque et des conférences épiscopales en matière de justice, de paix et de charité. Interrogé par Manuela Affigé, le nouveau président Mgr Durocher dresse un bilan très positif de cette assemblée.
Nous avons 3 provinces et des territoires où les écoles catholiques sont subventionnées par le gouvernement. Maintenant, de plus en plus, nous voyons le gouvernement chercher à imposer certaines perspectives, surtout, je dois l'admettre, autour de la question du mariage des homosexuels, pour que finalement on taise la position de l'Église sur cette question-là à l'intérieur des écoles catholiques. Et c'est là où il y a vraiment une discussion sérieuse autour de l'indépendance de ces écoles, l'autonomie de ces écoles dans ces matières, même si elles sont subventionnées par l'État. Alors, ça, c'est le genre de débat qui est engagé dans certaines de nos provinces. Nous avons aussi le témoignage du responsable du dialogue interreligieux de l'archidiocèse de Toronto, qui est venu nous partager des expériences formidables qu'il vit dans le dialogue interreligieux avec l'islam. Il nous a partagé en particulier un pèlerinage à Jérusalem avec des catholiques, des musulmans et des juifs ensemble, au lieu saint d'Israël. Et il semble qu'il nous a partagé que le voyage qu'il a fait avec ces gens-là était pour lui la preuve que le dialogue religieux est une vraie possibilité et peut être très fécond.
Monseigneur Durocher, nouveau président de la Conférence des évêques catholiques du Canada. Les nominations épiscopales au Vietnam sont rares et constituent donc toujours des nouvelles importantes. Ce samedi, le Vatican a annoncé la nomination par le pape François d'un archevêque coadjuteur à Ho Chi Minh-ville, un diocèse dont le titulaire actuel est âgé de 79 ans. À la mi-août, le cardinal Jean-Baptiste Mann a dû subir une intervention chirurgicale. Au mois de mars, il était venu à Rome pour participer au conclave. Par deux fois, a-t-il raconté avec émotion, le nouveau pape s'est incliné pour baiser son anneau épiscopal. Son coadjuteur, Mgr Paul Buy Van Dock, sera aussi administrateur apostolique d'un siège épiscopal vacant, celui de Mito. Cet évêque est un fervent partisan du dialogue, surtout avec les athées. A noter que cette nomination survient quelques jours après la visite à Rome d'une importante délégation du gouvernement vietnamien. Un prêtre croate sauvagement assassiné par les communistes en 1947 à l'âge de 27 ans a été béatifié ce samedi. Miroslav Bulezic venait de susciter la colère des militants communistes en administrant le sacrement de la confirmation. Ils le rouèrent de coups avant de lui trancher la gorge. Ce jeune prêtre avait fait l'objet de menaces de mort de plus en plus fréquentes, mais ne s'était pas laissé intimider. Les partisans du régime l'accusaient de collaborer avec les Allemands et de dissuader les jeunes d'entrer dans leur rang. À Rome, lors de ses études de philosophie à l'université pontificale grégorienne, Miroslav Bulezic avait été accueilli au séminaire pontifical français. Avant-dernier volet de ce magazine, place au livre pour Dieu, Catherine Aubin interroge cette semaine Jean-Daniel Cos, psychanalyste et éthicien, qui vient de publier « Traversée du christianisme ». Il a accepté de nous expliquer les défis de ce livre, à savoir le geste central du christianisme et ce qui en fait encore sa singularité et comment reprendre aujourd'hui ses grandes élaborations.
Jean-Daniel Cos, dans votre dernier livre, Traversée du christianisme, vous revisitez, vous mettez à l'épreuve des formules classiques du christianisme. Pourquoi ce défi ?
Ce défi est sans doute lié au fait qu'un certain nombre de grandes notions classiques du christianisme, ce qu'on appelle le credo, c'est-à-dire le Dieu créateur, l'incarnation, la résurrection, la Trinité, etc., tous ces éléments-là apparaissent souvent pour nos contemporains comme étant un certain nombre de vestiges pour lesquels ils peuvent avoir un certain respect, mais qui leur apparaissent souvent assez désuets. Et au fond, l'enjeu de ce livre, c'est de montrer la contemporanéité, la pertinence finalement des grandes notions classiques du christianisme.
Comment avez-vous fait pour rouvrir du sens possible pour ces affirmations principales du christianisme ?
Le sens possible consistait pour moi et pour mon collègue Ilian Cuvillier, qui est exégète, mais pour moi comme du point de vue en tout cas de la psychanalyse, mais aussi de l'anthropologie théologique, de montrer que finalement ces notions n'étaient pas une notion disons abstraite, mais qu'elles étaient une certaine compréhension du monde et de l'humain. C'est-à-dire que le christianisme dispose, construit, élabore finalement des figures de l'humain, une compréhension particulière de l'existence. En quoi finalement le christianisme, encore aujourd'hui finalement, nous dit quelque chose sur une manière d'être dans le monde, de comprendre sa propre existence, de se situer, etc. Finalement, il s'agit de non pas de changer les grands éléments qui composent le christianisme, mais de les reprendre, au sens finalement où la reprise consiste à repasser vers pour dire quelque chose aujourd'hui.
Parmi les concepts que vous avez repris, la toute-puissance de Dieu, comment comprendre aujourd'hui le sens, la portée de la puissance divine ?
C'est classiquement en effet, vous voyez, donc une notion qui est une notion pleine d'ambiguïté, difficile. Au fond, on a dans les textes classiques l'affirmation sur laquelle les chrétiens, dans le christianisme, on croit au Dieu Père Tout-Puissant. On sait comment la psychanalyse, par exemple, a interrogé cette notion de toute-puissance en montrant, par exemple, comment elle était souvent, en réalité, la projection fantasmatique de toute une série d'éléments qui nous composent, c'est-à-dire la façon dont on attribue au divin tout ce qui nous fait défaut. Il a tout ce qu'on n'a pas, il est tout ce qu'on n'est pas, et donc il est compris, ce divin, seulement à l'image ou à la contre-image, on pourrait dire aussi, d'une certaine manière, de ce que nous sommes nous-mêmes. Bon. Et donc, ce que j'essaye de montrer dans l'ouvrage, c'est comment le christianisme a déconstruit, d'une certaine façon le concept de puissance, non pas seulement qu'il l'a évacué, parce que je vais le dire dans un instant, mais comment il l'a déconstruit, c'est-à-dire notamment comment la figure du Christ lui-même vient défaire une certaine compréhension, une certaine représentation d'un Dieu tout-puissant, avec ces fameux textes de Paul, qui, lorsque Paul dit qu'au fond, la puissance de Dieu s'est révélée dans la faiblesse. Hein. Mais ça ne veut pas dire pour autant qu'il faut tout simplement remplacer le concept de puissance par un autre concept, mais il faut justement, comme on le disait tout à l'heure, le réinterpréter, c'est-à-dire le revisiter. Hein. La puissance, c'est pas ce qu'on en fait d'habitude, c'est-à-dire l'idée sur laquelle se fait l'illimité de la force, du pouvoir, etc. Mais la puissance, c'est l'illimité des possibilités. C'est-à-dire dans le sens où il y a toujours dans notre contingence de nouvelles possibilités qui nous sont offertes. Et la puissance, on peut dire, paradoxale du Dieu du christianisme, c'est celui qui se révèle dans la faiblesse du Christ, mais c'est aussi celui, finalement, qui ouvre de nouvelles possibilités pour l'être humain là où il semble ne pas y en avoir.
Livre pour Dieu, une rubrique hebdomadaire réalisée par Catherine Bain. Et c'est l'heure de retrouver le père Pascal Montavis pour le commentaire de l'évangile de ce dimanche 29 septembre, le 26e du temps ordinaire. C'est l'évangile selon saint Luc, chapitre 16, versets 19 à 31. C'est la parabole du riche et du pauvre Lazare. S'il n'écoute pas Moïse ni les prophètes, quelqu'un pourra bien ressusciter d'entre les morts, ils ne seront pas convaincus.
Ce passage, propre à l'évangéliste Luc, propose plusieurs enseignements intéressants. Tout d'abord, notons que l'homme riche n'a pas de nom, alors que le pauvre s'appelle Lazare, c'est-à-dire Dieu aide. Toutefois, ce n'est pas parce que le riche est riche qu'il n'a pas de nom, mais c'est parce qu'il laisse le pauvre couché devant son portail, sans soins et sans nourriture. Lorsque les deux meurent, l'un est emporté auprès d'Abraham, l'autre est enterré. Ce qui suit est particulièrement instructif. L'homme riche est certainement dans un lieu qui pourrait être le purgatoire. Il va commencer à vivre un décentrement de soi, une purification. La première parole de l'homme riche est un ordre qu'il donne à Abraham. « Abraham, mon père, prends pitié de moi et envoie Lazare tremper dans l'eau le bout de son doigt pour me rafraîchir la langue, car je souffre terriblement dans cette fournaise. » L'homme riche, bien que dans l'Hadès, continue de penser à lui-même, à son confort, et il donne un ordre afin que Lazare le serve. Il agit toujours en maître à qui tout est dû. Abraham lui explique que c'est son tour maintenant de souffrir et qu'un grand abîme infranchissable a été placé entre le lieu où il réside et celui où se trouve Lazare. De fait, entre le purgatoire et le paradis, l'homme ne peut pas décider par lui-même de passer de l'un à l'autre, mais le Seigneur, lui, peut faire passer en temps voulu du purgatoire au paradis. L'homme riche semble alors mieux comprendre sa situation et le chemin qu'il est appelé à faire. Il demande cette fois-ci à Abraham : « Eh bien, père, je te prie d'envoyer Lazare dans la maison de mon père. J'ai 5 frères, qu'il les avertisse pour qu'ils ne viennent pas, eux aussi, dans ce lieu de torture. » Le riche fait donc un progrès. Certes, il continue de donner des ordres à Lazare, mais il ne se préoccupe plus de lui-même, mais de ses frères. Il commence à penser aux autres, afin que ces derniers puissent éviter ce lieu de torture. De fait, la purification qui est vécue au purgatoire peut certainement se comprendre comme un décentrement de soi. Le riche n'a toutefois pas encore accompli la totalité du chemin. Il continue de considérer Lazare comme celui à qui l'on donne des ordres. Ensuite, la parabole prend une tournure plus solennelle. Abraham répond à l'homme riche de la manière suivante. S'il n'écoute pas Moïse ni les prophètes, quelqu'un pourra bien ressusciter d'entre les morts, ils ne seront pas convaincus. Il est donc prédit par avance que la résurrection de Jésus ne suffira pas pour convaincre tout le peuple qu'il est vraiment le Fils de Dieu. De fait, cette prophétie se vérifie encore aujourd'hui. Cette parabole contient donc un double enseignement. D'une part, elle nous interpelle afin d'être attentif au pauvre qui est près de chez nous, et d'autre part, elle nous rappelle que le cœur de notre foi est la résurrection de Jésus-Christ. Dans le pauvre, l'humilié, nous retrouvons la présence du Christ. N'hésitons pas, en ce dimanche, à lui donner un verre d'eau s'il a soif, à le vêtir s'il est nu, ou à le visiter en prison s'il est prisonnier.
C'est la fin de cette émission. Merci de l'avoir suivi. Je vous invite à nous retrouver sur Internet, radiovaticana.va, ainsi que sur Facebook, Radio Vatican, en français. Bon dimanche à tous.